Bonsoir, François Régis Gaudry.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Très bien, merci. Très heureux d'être à Bordeaux sous la neige.
C'est assez rare. Donc vous êtes venu pour le voir.
C'est folklorique. Ouais. Ça me... J'ai commencé par un très très beau temps avec un ciel d'hiver très bleu et très claquant. J'ai eu la chance d'aller faire une visite à Château d'Yquem.
Oui.
Et je me suis retrouvé à Bordeaux 2 heures plus tard sous la neige.
Non mais en fait on s'est dit ça. On s'est dit il vient quelques jours autant qu'on lui montre tout Bordeaux sous toutes les météos possibles.
Parfait.
On est comme ça, Bordeaux.
Ça me va.
Vous êtes avec nous pour nous présenter On va déguster Paris, l'encyclopédie qui dévore la capitale à pleines dents aux éditions Marabout. Ce format est un peu plus petit que les précédents. Pourquoi ?
Pour le rapprocher de l'idée d'un guide.
D'accord.
Moi, j'ai toujours eu un problème avec les grands formats. Je trouvais ça un peu... J'avais tendance à trouver ça un peu prétentieux. Et c'est vrai que mon éditeur avait insisté sur les 3 premiers volumes pour imaginer un grand format et dans un esprit à la fois d'économie de papier, hein, parce que vous êtes peut-être au courant que le prix du papier flambe.
Oui.
Mais également aussi pour rapprocher ce guide justement de sa vocation, de rapprocher ce livre de sa vocation de guide. C'est pour ça d'ailleurs qu'à cette occasion, un des rédacteurs en chef du livre qui est au premier rang, là, Charles Patin Okoun, qui m'a accompagné de très près dans cette aventure, a eu au cours d'une de nos premières réunions l'idée de ce néologisme encyclopée guide. Voilà. Une espèce de mot valise qui raconte bien le bouquin, c'est-à-dire un livre qui a une dimension et une ambition culturelle, historique, géographique, patrimoniale, et en même temps une partie guide très conséquente avec 2070 adresses qui permet vraiment de s'y retrouver dans Paris selon qu'on aime la charcuterie, la boucherie, la pâtisserie, l'épicerie, les restaurants, les tables gastronomiques, les petits bistrots, les bouibouis, et j'en passe. Et voilà, donc tout ça pour dire que ce livre adopte un format un peu plus modeste, ce qui le rend plus maniable et plus convivial, me semble-t-il.
On y retrouve quand même votre patte, celle des précédents, puisque c'est un guide en même temps très culturel, très appétissant sur tout ce qui entoure la table. C'est-à-dire que vous avez quand même ce truc-là, vous, de mettre la table au cœur d'une histoire qui s'étend, qui se répand. C'est-à-dire que pour vous, la cuisine, c'est pas que la cuisine, c'est tout un ensemble, en fait. C'est un univers imaginaire qui déborde.
Oui. Je racontais à Thomas Darcos, qui est un jeune apprenti cuisinier qui nous accompagne dans nos aventures, puisque on était à Bordeaux aussi pour tourner une émission... très très bon sur Paris Première, dont on a attaqué en septembre dernier la 13e saison. Et je lui demandais, il me conduisait chez un pêcheur de lamproie, pas très loin d'ici, parce que c'est la première fois que j'ai goûté une lamproie à la Bordelaise, pour être honnête, en 20 ans de carrière. Et ouais, j'ai eu plusieurs rendez-vous manqués avec ce plat, et c'était... Et c'était une lacune que j'assumais mal. Et je passe ma carrière de critique gastronomique à combler mes lacunes. Et c'est ça qui m'intéresse. Et bref, sur le chemin en voiture, je lui demandais s'il connaissait un livre qui est pour moi l'un des plus précieux qui soit, qui est très en vue dans ma bibliothèque, écrit dans les années 70 par Alain Chapelle, le grand chef 3 étoiles de Mionnet, dans l'Ain, au nord de Lyon, qui fut un cerveau de la nouvelle cuisine, malheureusement parti trop tôt. Puisqu'il est décédé d'une crise cardiaque dans les années 90, il a écrit ce livre qui s'intitule « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Et j'en ai fait un peu mon mantra. Et c'est vrai que je suis convaincu que la cuisine, c'est toujours évidemment des recettes avec ses proportions, ses ingrédients, ses gestes, ses techniques. Et en même temps, c'est tellement plus. C'est ce qui nous nourrit l'esprit autant que le corps. Et c'est certainement une grille de lecture qui permet d'appréhender... l'histoire, la géographie, la culture au sens large. Et c'est vrai que ce livre est nourri, comme les précédents d'ailleurs, de beaucoup de disciplines culturelles et artistiques différentes, puisqu'il y a des pages consacrées à la relation entre la nourriture parisienne et le cinéma. On a des pages sur la peinture, sur l'histoire évidemment, puisque Paris est pétri d'histoire depuis qu'elle s'appelle Lutèce. Enfin... Voilà, l'idée, c'est de faire de ce livre une espèce de carrefour culturel autour de la cuisine.
Mais vous, quand vous passez à table, quand on vous présente par exemple de la lamproie, vous y voyez tout un univers plus large que simplement le plat?
Bah oui, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu la chance d'interviewer une excellente cliente, comme on dit vulgairement dans le métier de journaliste, c'est-à-dire une femme très impliquée dans son métier, femme de pêcheur, passionnée par la lamproie depuis qu'elle a décidé d'embrasser ce métier. C'est monsieur qui pêche la lamproie juste en face dans la Dordogne, sur la Dordogne, et c'est madame qui conditionne la lamproie, qui la cuisine pour une table d'hôte, bienvenue à la ferme, etc., et qui la prépare même en conserve. Et elle me raconte effectivement qu'on a affaire à un animal préhistorique, que la lamproie était un plat, un mets de roi réputé depuis le 16e siècle, que Rabelais en faisait même son régal. Voilà, donc évidemment, cet exemple qui montre précisément qu'à travers un plat, en soulevant une cocotte, on peut évidemment lire l'histoire d'un territoire. Et c'est toujours ce qui m'a passionné et qui fait sans doute que je ne me lasserai jamais d'exercer ce métier.
Et alors, justement, comme vous le disiez, hein, dans ce livre, on voit bien que un plat déroule toute une histoire, vous partez ailleurs, etc. Du coup, en lisant celui-ci particulièrement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui vous intéresse en premier? C'est la cuisine ou c'est les gens?
Mais c'est les deux à la fois, parce que la cuisine sans les gens, ce ne serait qu'une une nature morte assez peu intéressante. J'ai toujours apprécié les rencontres, et c'est certainement mon sens de la, enfin, ma grande curiosité qui m'a poussé à ça. Mes parents m'ont appris à être curieux, en fait.
Comment?
En me stimulant.
C'est-à-dire?
Ça passait par des jeux, des devinettes. J'ai deux parents profs, donc ça aide. Ils avaient un certain sens de la pédagogie. Une maman professeur agrégé d'histoire-géographie, un papa professeur agrégé d'espagnol. Et c'est vrai que on a passé notre jeunesse à être stimulé. Voilà. Alors il faut stimuler ses enfants. Moi, j'essaie de faire pareil avec mes filles. Stimuler, c'est essayer de leur donner un certain appétit de la vie. Et cet appétit de la vie, il passe effectivement par des petites passions qu'on grappille à droite à gauche. C'est vrai que j'ai toujours été enfant très curieux de tout. Je pense l'être resté. Et je crois que c'est cette capacité d'émerveillement et de curiosité qui effectivement me pousse dans ma passion. Donc toujours l'envie de savoir ce qu'il y a derrière une recette, derrière. Encore une fois, on a passé un moment assez exceptionnel grâce à Jérôme Gagnez, qui fait partie de ma bande, puisqu'il a fait partie du dispositif de tournage pour notre émission Très Très Bon. Voilà un chroniqueur vin que les auditeurs de France Inter connaissent peut-être. Je vois des chefs qui opinent, mais il est chroniqueur vin à On va déguster sur France Inter le dimanche avec moi. Par ailleurs, c'est un compagnon de croûte, comme j'aime bien le surnommer. D'ailleurs, juste après, on va faire une table ensemble pour les besoins de mon émission. Il était à Paris, il s'est installé à Bordeaux. Il en profite évidemment pour explorer le vignoble bordelais. Et il nous a organisé ce séjour à Château d'Yquem pour mieux comprendre ce vin iconique. Et c'est vrai que là, on a tout simplement, quand on est dans ce magnifique domaine de Sauternes, l'histoire devant soi. Et on a envie évidemment d'en savoir plus sur à la fois ce champignon magique qui est la pourriture noble, le botrytis. On a envie d'en savoir plus sur tout ce qui est sous nos yeux, et ça passe évidemment par des rencontres et forcément des rencontres humaines.
Alors là, vous le dites, en fait, vous êtes un peu accompagné, hein. On a limite le premier rang qui était avec vous, qui est de votre équipe, et d'une façon générale, vous faites tout en équipe. C'est ouais. Des émissions de radio, des livres, donc pour vous, la cuisine, c'est aussi ça, c'est impérativement une tablée.
La cuisine est déjà une affaire d'équipe, et même pour être plus précis, une affaire de brigade. Et il est vrai que ma force à moi, c'est mon collectif. Et si j'ai un talent, c'est peut-être aussi celui de savoir s'entourer. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que je ne me jette pas des fleurs, mais au contraire, je pense que ma richesse, c'est ceux qui m'accompagnent aussi, évidemment. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu professionnellement... Je suis, comment dire, plutôt solitaire dans la vie et très collectif au travail, en fait. Et c'est vrai que... Et en même temps, dans ma vie, je mélange un peu, forcément, amitié et boulot. Tout va un peu de pair. Mais il est vrai que tous mes projets se font de manière collective. Ce livre est un livre choral. Mon émission sur France Inter depuis 10 ans est une émission de bande. Et mon émission sur à la télévision, très très bon sur Paris Première, est également une émission de bande. Et j'aime m'entourer de personnalités, hommes et femmes, aux tempéraments différents et aux expertises différentes. La dimension humaine des gens qui m'entourent m'intéresse parce que je sais que ça donnera un certain relief, un certain tempérament à l'antenne ou au micro, mais également à travers les livres. Et puis en même temps, ce que je vais chercher, c'est un bagage de connaissances, c'est une expertise. Et ça, pour le coup, j'ai toujours procédé comme ça depuis le début de ma carrière de journaliste gastronomique.
Ça vous présente comme un personnage d'un grand dynamisme. En fait, quand on lit votre livre, on voit bien, se dégage toujours une grande énergie de tout ce que vous faites autour de la tablée. Donc ça donne envie, c'est une forme d'appétence qui n'est pas que par ce qu'on mange, mais aussi par ce qui s'en dégage. Et donc oui, c'est rigolo, vous me disiez qu'il y a des moments où vous êtes plutôt solitaire. On se demande à quel moment, quand est-ce que vous avez le temps?
Non, mais par ailleurs, j'ai aussi une... Quand je dis solitaire, c'est que j'ai une vie de famille, évidemment, à laquelle je tiens. Et même si, faut toujours faire attention à la frontière entre l'espace privé, l'espace professionnel, etc. Parce que c'est toujours pareil, plus on aime son boulot, plus il prend de place, plus il devient une drogue, dure, voire très dure. Et il faut savoir décrocher aussi de temps en temps, faire des pauses. Mais c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui me passionne et j'ai la chance aussi de mettre en place des projets qui me permettent de beaucoup voyager. Voilà, Bordeaux, c'est un exemple. Ça faisait maintenant un petit moment que je voulais revenir, même si c'est une ville que je commence à connaître un peu pour y venir régulièrement. Mais il est vrai que mon métier me permet aussi beaucoup de voyager. Alors, je fais un livre, en l'occurrence, consacré à Paris, parce que c'est peut-être bien le terrain de jeu que je connais le mieux depuis 20 ans. Mais je suis finalement très souvent en dehors de Paris, et ça, j'y tiens. Au contact de toutes les régions françaises, je voyage même régulièrement à l'étranger. Je continue à entretenir, évidemment, ma relation passionnelle à l'Italie. Même si j'ai un livre qui est derrière moi, je continue à aller en Italie pour me confronter à toutes les recettes, les personnages, les restaurants que j'ai oubliés dans mon livre. Ce qui permettra éventuellement d'imaginer une réédition, mais pour plus tard. Enfin, toujours est-il que voilà, il y a Paris évidemment qui est mon entre guillemets mon centre névralgique, puis qui est un peu le lieu de mes le lieu où il y a les médias pour lesquels je travaille. Et après, je tiens beaucoup à ces déplacements en région qui me régénèrent et me permettent de faire de très belles découvertes.
Et d'ailleurs, vous apportez un peu de région à Paris, un peu d'étranger à Paris dans ce livre, puisque en fait on voyage en étant à Paris aussi parce que, comme toutes les capitales aujourd'hui, on y trouve de quoi voyager à table.
Exactement. J'ai pas du tout voulu faire évidemment un livre parisianiste. D'abord parce que moi je me sens pas trop concerné par le parisianisme, même si attention c'est quand même un genre de snobisme dans lequel on peut verser assez facilement. Donc faut rester quand même assez prudent. En tout cas j'ai voulu faire un livre parisiano-centré, ça c'est certain, puisque il est consacré à Paris. Mais j'ai voulu montrer Paris comme une ville et une terre à la fois d'affluence et d'influence. Une ville qui aspire et qui inspire. Donc c'est une ville qui prend autant, qui vampirise, autant qu'elle influence le reste de la France et du monde. C'est ce double mouvement apparemment contradictoire qui a toujours fait la vitalité de la gastronomie à Paris. Et c'est ce qui me passionne. Paris a été... en tout cas, la gastronomie parisienne a été construite par des provinciaux. Hein, et ce terme est loin d'être péjoratif dans ma bouche, même si désormais on m'interdit de prononcer le mot province par parenthèse au micro de France Inter, parce que ce serait vexant si l'on en juge par les torrents de mails d'auditeurs et d'auditrices qu'on reçoit dès qu'on prononce le mot province, alors que moi je trouve que c'est un très joli mot, mais bon. Je ferme la parenthèse, ça c'est la bien-pensance. Donc je dis région désormais, et j'ai proscrit province de mon vocabulaire à regret. Toujours est-il que Paris, effectivement, a été construit par des Auvergnats, des Lyonnais, des Alsaciens, et ça on le raconte dans ce livre, et puis plus globalement aussi par des communautés étrangères, en provenance du monde entier. Et c'est ce qui est assez fascinant dans Paris, c'est son attractivité et ensuite son pouvoir effectivement de rediffuser son talent après avoir digéré des influences qui viennent des quatre coins de France et du monde entier.
On trouve quand même dans votre livre Poilane, la famille Poilane sur trois générations, qui pour le coup est une famille vraiment très parisienne finalement.
Mmh. Mais il y en a, heureusement.
Il y en a.
Il y en a, mais il est vrai que les grandes sagas parisiennes puissent souvent leur origine en région. Alors, vous donnez le contre-exemple de la famille Poilane au destin tout à fait passionnant. On est d'ailleurs en contact avec la dernière génération à Polonia, hein, qui a pris dans des conditions que vous connaissez peut-être, de manière très précipitée, puisque son papa Lionel est mort accidentellement mort accidentellement en hélicoptère. Et effectivement, c'est Apollonia qui a pris la suite à un âge très précoce. Et voilà un petit bout de femme qui a continué à piloter le navire familial de manière assez exemplaire. Et on raconte effectivement cette saga, on raconte même l'anecdote. Je pense à ça parce que ce livre va être... j'en profite pour faire une mini-promo, mais va être suivi d'une exposition qu'on organise là encore en équipe à la Conciergerie à partir de la mi-avril. Et qui va concerner justement Paris. C'est le Centre des Musées Nationaux qui m'a proposé il y a 2 ans d'être commissaire d'une exposition qui s'intitulerait Paris, capitale de la gastronomie. Il m'avait appelé sans savoir même que je travaillais sur un bouquin et il y a eu comme un alignement de planètes. Et j'ai mené de front du coup ce livre chez Marabout et aux éditions de Radio France avec cette exposition qui va voir le jour donc au printemps juste à côté de Notre-Dame. Et vous parliez de la maison Poilane. Ils ont accepté pour l'exposition de reproduire ce que l'on raconte dans les pages Poilane du livre, les fameux meubles en pain,
ouais.
P-A-I-N,
oui, c'est ça.
Que Salvador Dali leur avait commandé dans les années 70.
Il y a des photos incroyables.
Et il y a des photos incroyables. C'est-à-dire qu'en gros, Salvador Dali vivait avec Gala, sa muse, dans une suite du Meurice, rue de Rivoli, en face du jardin des Tuileries. Et il est allé voir un jour Lionel Poilane. Bon, il avait une petite araignée collée au plafond, Salvador Dali, comme on le sait. Et visiblement, il aurait demandé à Lionel Poilane de lui construire des meubles en pin, lustre, buffet espagnol, lit à baldaquin. D'abord pour épater Gala, et puis en plus, il voulait absolument vérifier s'il y avait des souris à l'hôtel Meurice. Voilà, et c'est comme ça que je fais très mal son accent. Hein. Mais il y a une vidéo de Lina à télécharger sur YouTube qui est fantastique. Et c'est comme ça que Apollonia Poilane a accepté de reproduire le lustre et le buffet espagnol dans les mêmes mensurations dans le cadre de cette exposition. Donc on pourra voir le mobilier en pain signé de la maison Poilane dans cette exposition de la Conciergerie.
C'est difficile à imaginer quand même de votre livre tout d'un coup mis en scène, sorti de... Il est tellement foisonnant qu'en fait, ça a dû être un sacré défi d'en faire une exposition.
Oui et non, mais vous avez raison. Et en même temps, comme il est riche de beaucoup de documents différents, à la fois des photos, des tableaux, de la vaisselle, des arts de la table... on a justement pioché dans le livre pour essayer de construire tout un parcours muséographique avec un scénographe très talentueux. Et on va exposer des pièces de nature et d'origine très différentes. Donc à la fois effectivement des arts de la table avec des très beaux couverts, par exemple de l'hôtel Ritz qui ne sont jamais sortis de leur collection et qui datent de la fin du 19e, ouverture de l'hôtel Ritz 1898, hein, vraiment à la veille de la Belle Époque. Et il y aura également beaucoup d'autres documents, des photos que les héritiers de Doineau ont accepté de nous prêter, puisque Doineau était un grand amoureux notamment des Halles, Baltard, détruites à partir de 1971, hein, juste avant leur déménagement à Rungis. Et bref, cette exposition, effectivement, exposera... vraiment à la fois des peintures, de la vaisselle, des livres, des menus, avec un grand éclectisme et un effet très panoramique sur le point historique, puisque ça va du Moyen-Âge jusqu'à nos jours.
Et dans votre livre aussi, on retrouve un peu de cette histoire, finalement, sur le temps. Mmh. Et on voit bien que le 19e siècle a été très impactant de tout ça, pour la cuisine en général, mais à Paris particulièrement.
Ouais.
Et on voit bien ce qu'on a perdu aussi en cours de route, notamment ce rapport à la cuisine la nuit.
C'est vrai. Ouais, on est plus sage. On a peut-être perdu aussi une certaine idée de la restauration populaire, qui était magnifiquement incarnée par notamment le bouillon. Ben, inventé justement par un certain Duval au milieu du 19e siècle, au cœur des Halles, pour nourrir le petit peuple et les forts des Halles. Voilà un boucher qui a eu l'idée de recycler les os, les carcasses des bêtes qu'il découpait en qualité de boucher, et qui a réfléchi à une formule de restauration justement pour faire des bouillons, pour ne pas perdre en fait les chutes de viande et de carcasses qu'il... avec lesquels ils se retrouvaient. Et c'est comme ça que les premiers bouillons sont apparus, des grands établissements qui proposaient jusqu'à 400 couverts. Et il y a eu plus de 300 bouillons à la fin du 19e siècle à Paris. Ouais. Alors on observe le bouillon qui reprend du poil de la bête à Paris désormais, à travers des formules proposées par les frères Moussier, par exemple, le bouillon Pigalle, le bouillon République, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, ou vous y êtes peut-être déjà attablé d'ailleurs. Et qui essaye de remettre au goût du jour cette idée de se nourrir de manière très correcte et roborative à prix accessible. Voilà, et c'est vrai que Paris avait cet art de nourrir bien pour pas très cher. Et Paris, effectivement, proposait une vie gastronomique et nocturne très fournie, évidemment, à partir de. Enfin, ça a commencé en fait avec l'invention du Palais Royal au lendemain de la Révolution française, fin 18e, au Palais Royal, qui aujourd'hui est une espèce d'endroit secret où on croise à chaque fois 3-4 couples d'amoureux, mais c'est pas un lieu très vivant, entre guillemets, c'est même un lieu considéré comme assez éteint, et c'est ce qui fait son charme aujourd'hui. Mais il fallait imaginer le centre névralgique de la gastronomie en Europe à la fin du 18e siècle, avec plus de 40 restaurants. Où tous les luxes étaient permis.
Bon, à Bordeaux, il y a eu, de la même façon, et comme probablement dans beaucoup d'autres villes, ce principe du marché qui ouvre tôt ou finit tard, on ne sait pas trop dans quel sens, où les gens viennent manger à 3 heures du matin en sortant de boîte de nuit. Donc, vous dites, on est devenu plus sage, on est devenu aussi plus hygiéniste quand vous racontez, par exemple, qu'il y a eu des vaches en plein Paris, qu'on faisait du lait, que tout se passait dans la rue, finalement.
Paris a concentré effectivement jusqu'à une époque récente des productions agricoles au cœur de la ville. Ouais. Il y avait jusqu'au lendemain de la guerre des laiteries, et il fallait imaginer quand même des cheptels bovins en plein Paris avec une production de lait, de fromage et de yaourt. Le Fontainebleau n'est jamais qu'une invention parisienne. Hein. Vous connaissez sans doute cette spécialité fromagère ou laitière à base de lait et de crème très foisonnée. Mm-hmm. La légende raconte que c'est en circulant sur les pavés de Fontainebleau que les carrioles finissaient par constituer une espèce de crème fouettée à la surface des pots de lait en étain. D'ailleurs, hypothèse très crédible, hein, elle me séduit beaucoup, cette légende. Mais il est vrai que Paris concentrait des jardins vivriers, des lopins cultivés qu'on a recensés, et dont on a restitué l'histoire dans le livre, notamment grâce à Xavier Mathias, qui est notre spécialiste des légumes et du potager. Dans notre émission, on va déguster.
Et vous faites aussi un tour d'horizon, finalement, qui s'étend un petit peu à l'Île-de-France, sur les productions qui sont très proches de la capitale. Oui. On découvre quand même cette énergie-là, hein, qu'on ne connaît pas assez bien. Comment ça se fait qu'on la connaît pas assez bien?
Oui, c'est vrai. D'abord, le terroir francilien, au départ, si Paris s'est installé au bord de la Seine, bon, évidemment pour des raisons de transport, mais on montre aussi que la Seine fut un fleuve nourricier par toutes les pêches qu'on y pratiquait, et des pêches abondantes. Et Paris se situe évidemment au cœur d'un bassin, donc là j'évoque un terme géologique, avec des natures de sol très variées, les calcaires de l'Abri, qui ont permis justement l'essor de savoir-faire agricoles très diversifiés. Il y avait même une tradition viticole très forte dans les alentours de Paris. Alors, il est vrai qu'après, années 60, années 70, le terroir francilien a pris un coup dans l'aile avec l'urbanisation galopante. Et a pris aussi un coup dans l'aile avec le chemin de fer. Jusque la première partie du XXe siècle, tous les produits que l'on trouvait au cœur des Halles baltares étaient essentiellement d'extraction francilienne, parisienne. Le chemin de fer, effectivement, a peu à peu fait grimper les productions du Val-de-Loire et de toute la France. Et là, effectivement, le terroir francilien s'est retrouvé concurrencé de manière très brutale par tous les terroirs de France. Et c'est un peu comme ça quand même que le terroir d'Île-de-France s'est peu à peu éteint. Mais il n'a pas dit son dernier mot, il résiste. Et il résiste d'autant plus qu'il existe encore des dynasties de paysans qui, autour de Paris, continuent à élever ou à cultiver des pépites du terroir. Les exemples abondent, mais... Moi, un des exemples pour moi les plus marquants, on a tourné là-bas il y a assez peu de temps, c'est une formidable cressonnière installée à Méréville, dans l'Essonne, la famille Morisot, installée, c'est Sainte-Anne, la production Sainte-Anne, hein, c'est ça, en 1904.
Un souffleur au premier rang, en fait.
Mais je veux dire, c'est là, il s'agit de 3 ou 4 générations. Et je suis allé y faire un tour pour la radio il y a quelques temps, puis on y est retourné pour la télévision. Et on a affaire à une production, enfin le paysage n'a pas changé depuis le 19e siècle, avec cette production de cresson de fontaine qui, comme vous le savez, est une plante cousine du chou, mais semi-aquatique. Donc on dit que le cresson de fontaine pousse les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Et Michael Morisot, qui est la dernière génération, continue à produire exactement de la même manière que ses aïeux. Ce fabuleux cresson qui fut l'un des légumes préférés des Parisiens jusqu'au XXe siècle, en fait. Et des exemples comme ça, il y en a... Il y a le champignon de Paris, évidemment.
Ouais.
Même si le champignon de Paris, désormais... Enfin, 60% des champignons de Paris que nous consommons viennent plus de Paris, en fait. Mais du Val-de-Loire ou parfois même de Chine, puisque la Chine est le premier producteur de champignons de Paris. Mais le terroir francilien a quand même encore... cette belle diversité à nous proposer, avec une attention de plus en plus forte des cuisiniers et cuisinières parisiens à l'égard des circuits courants. Voilà. Et ça, c'est important.
En 20 ans, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Là, on se rend bien compte que, de toute façon, évidemment, la géographie, l'histoire fait que les choses bougent. Mais vous, dans votre rapport à ce métier de découvreur, de chercheur...
Qu'est-ce qui a changé dans le paysage parisien ?
Oui.
Moi, j'ai plutôt tendance, je suis plutôt pessimiste de nature dans la vie, mais concernant mon métier, je vois tellement de belles choses, en fait, que j'ai appris à regarder le verre à moitié plein. Et en fait, j'ai plein de raisons d'espérer. Je trouve que la ville se transforme. Alors évidemment, parfois, Paris tombe dans le panneau de certaines facilités, de tendances un peu trop facilement attrapées, piochées à New York ou à Londres. On a évidemment une cuisine de rue très étoffée, mais on voit un peu derrière les intentions de ceux et celles qui décident de nous proposer des choses déjà un peu vues à Londres ou dans d'autres grandes capitales. Mais il y a quand même, aussi une scène très diversifiée, très éclectique, avec des choses géniales. Vous prenez le seul exemple de la scène pâtissière parisienne. Voilà un formidable vivier de talent et une discipline où Paris a, pourrait-on dire, alors je vais pas me... J'ai goûté de très belles pâtisseries pas plus tard qu'il y a 2 heures, donc je vais pas mettre tout Bordeaux à dos, mais on pourrait dire que même sur le plan mondial, Paris a un quasi-monopole de la création pâtissière. Mais quand je dis de la création pâtissière, c'est ces gâteaux qui font saliver le monde entier, quoi.
Oui, vous écrivez « Paris a sacré le sucré », comme nulle part ailleurs.
Ouais. Paris a ce double Paris en termes de sucré, et c'est pas valable que pour le sucre d'ailleurs, joue le rôle à la fois d'un conservatoire et d'un laboratoire. Voilà, ça j'aime bien. Le conservatoire, c'est les deux à la fois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le côté tradit et la modernité.
Et ça continue.
Et ça continue de plus belle. C'est-à-dire que Paris a enfanté... globalement les plus belles créations pâtissières du monde, du macaron que Pierre Hermé a réussi à propulser jusqu'au fin fond du Japon, en passant évidemment par le Saint-Honoré, le Paris-Brest, tous ces grands gâteaux qui ont été créés depuis l'invention de la pâte feuilletée, de la pâte à choux, qui sont là encore des techniques parisiennes. Donc c'est vrai que quand on creuse un peu, on se dit, mais Paris a globalement un peu tout inventé quand même, même si après, évidemment, il y a le cannelé à Bordeaux. Je suis allé en manger un délicieux à... C'est les beaux mots. Oui, les mots doux, pardon. Je confonds toujours avec mes mots. Ouais, les mots doux, cette petite pâtisserie qui proposait un cannelé d'anthologie avec une magnifique vanille de Madagascar bio. Voilà. Mais Paris, sur le plan des gâteaux, voit surgir une scène étonnante avec encore des pâtissiers qui continuent à créer. J'ai rencontré il y a 15 jours Cédric Grolet, vous en avez sans doute entendu parler. J'avais rendez-vous un vendredi à 9h. La boutique ouvre à 10h et il y avait, sans mentir, devant sa boutique, 70 mètres de queue de gens qui attendaient d'acheter leur gâteau ou leur galette des rois. Et parmi, dans cette file d'attente, il y avait 70% d'étrangers fascinés par le phénomène. Voilà.
Comment vous
Cédric Grolet, c'est un Mick Jagger de la pâtisserie. Quoi. Il y a quelque chose de troublant.
C'est ça. Comment vous expliquez que Paris soit sucré ?
L'excellence de la formation aussi. Paris a cet héritage pâtissier que la ville a réussi à faire fructifier au long des siècles. Et puis la formation pâtissière. C'est-à-dire que quand vous êtes un grand pâtissier et que vous avez une pile de CV comme ça sur votre bureau et que vous avez le luxe de pouvoir choisir les jeunes apprentis qui vont venir travailler à vos côtés et auxquels vous allez transmettre un peu de votre savoir, bah c'est comme ça qu'opère la transmission de l'excellence. Et c'est en ça que Paris donne le là en termes de pâtisserie, mais pas que de pâtisserie d'ailleurs. Parce
Bien
que, après, moi, j'aime pas trop les concours. On m'a fait dire, ou c'est peut-être moi qui me suis un peu mal exprimé dans les médias, les espèces de déclarations cocardières, Paris centre du monde gastronomique, Paris phare gastronomique du monde. Il m'est certainement arrivé de dire ces expressions. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire... un concours entre grandes capitales pour savoir de qui, entre Londres, New York, Paris, tient le... Mais Paris a en tout cas ce génie d'être à la fois reposé sur un patrimoine fantastique et de continuer à proposer une gastronomie ambitieuse et créative.
Oui, puis il en a cette image. Vous racontez aussi, par exemple, vous parlez d'Hemingway dans les années 20, qui vient en fait en France, pas seulement pour boire de l'alcool, parce qu'il peut le faire ici, que c'est prohibé aux États-Unis, mais aussi pour manger. C'est-à-dire qu'il y a une réputation mondiale de Paris associée à la gastronomie. Et ça, vous le racontez bien dans votre livre. Est-ce que vous, personnellement, vous avez une préférence pour le salé, le sucré? Comment vous faites pour manger des gâteaux à 9h du matin?
Oh, ça, c'est pas très difficile. C'est je peux vous assurer que c'est
y a pire,
ouais, comme descendre à la mine par exemple. Non, mais je suis sérieux, c'est-à-dire que j'ai la chance de faire ce métier, j'en ai conscience. Après, il est vrai que je suis pas un dévoreur, je suis plutôt un picoreur. J'ai pas la température, enfin, j'ai pas la force de me remplir. J'arrive vite à satiété en fait, si vous voulez. Et puis, si vous voulez vraiment des détails sur mon régime alimentaire, je suis plus porté sur le salé que sur le sucré.
Quand même.
Le sucré, je me force un peu, mais j'ai fini par aimer. Vous savez, c'est comme le syndrome de Stockholm. À force d'y aller, on commence à... on est pris en otage de sa passion. Et il est vrai que... Non, mais après, en sucré, j'ai mes passions. Là, par exemple, j'ai vu un flan qui me faisait de l'œil. Voilà. Enfin, il y avait un flan magnifique, superbement vanillé, pas trop figé, pas trop collé, justement. Très crémeux et onctueux. C'est comme ça que je l'apprécie. Et c'est vrai que dès que je vois dans une boutique ou dès que j'entends parler ou dès que j'aperçois sur les réseaux sociaux une spécialité qui me séduit, j'en fais mon miel.
Vous êtes en train de me dire que le flan que vous venez de me décrire, avant de le goûter, en le voyant,
ouais,
vous saviez qu'il était un peu crémeux, un peu vanillé, un peu...
Oui, mais ça, je pense que c'est à la portée de tout gourmet ou bec sucré. Non, mais dans le sens où on se fait un peu... moi, j'ai évidemment
œil,
chacune des spécialités que j'aime. On a une bibliothèque de critères, on coche des cases. Et puis, évidemment, souvent, on a des intuitions. Mais ça, c'est à la portée. C'est à votre portée aussi. Hein.
Je pense que vous avez quand même un œil particulièrement...
Parce que je l'exerce un peu, mais...
Et à propos de cet exercice, vous racontez dans ce livre que vous êtes arrivé à Paris et que vous aviez une passion qui était la cuisine, que c'est devenu un métier. Alors sur cette préface, vous avez un vocabulaire qui est assez rigolo. Vous parlez d'engloutir Paris. C'est un vocabulaire un peu d'ogre.
Oui, c'est vrai.
Alors je me suis demandé si vous aimiez les contes.
Oui.
Dans les contes de fées, il est question de manger aussi beaucoup. Quels souvenirs vous avez d'enfance, de lecture, de contes et de la table? Vous vous souvenez des premières fois enfant où vous avez perçu la table et ce qu'on y mange d'une façon qui rejoint ce que vous faites aujourd'hui?
Ouais, oui. Enfin, comme tout le monde, je crois que j'ai bien aimé Boucle d'Or, par exemple, avec la succession des bols de plus en plus grands et les ours de tailles différentes. Bon, après le petit chaperon rouge avec la grand-mère qui se fait bouffer par le loup-garou, c'est moins drôle. C'est enfin, disons, une expérience gastronomique cannibale qui m'intéresse un peu moins, mais enfin, cannibale non, puisque c'était d'ailleurs un loup qui mangeait un humain, donc tout va bien. Je sais pas si c'est forcément les contes ou mes lectures qui m'ont poussé à l'amour de la table. Je pense que c'était plus une histoire familiale, en fait, c'est toujours la même chose.
Vous parlez de votre grand-mère, vous parlez...
Ouais, mais c'est-à-dire, quand on grandit dans un contexte où, effectivement, mes parents m'ont appris à être attentif aux choses, de manière générale, et aux choses de la table. Voilà, on prenait les choses au sérieux à la maison. C'était une affaire sérieuse. On prenait pas ça par-dessus la jambe, quoi. Ma mère a toujours tenu son rôle de mère nourricière. Donc ça, c'était plutôt la sphère privée. Et puis mon père, qui était peut-être de conditions plus aristocratiques, avait cette idée à continuer à entretenir cette tradition très française de casser la tirelire pour aller fêter un bel événement au restaurant. Voilà. J'avais des parents profs, donc on roulait pas sur l'or. Mais par contre... quand on avait un peu d'argent, c'était souvent au restaurant que mes parents le dépensaient. Et ils nous ont, on était quatre enfants, et ils nous ont transmis cet amour-là. Puis j'ai beaucoup voyagé en France et en Italie, qui était d'abord aussi la passion de mes parents. Mais mes parents m'ont toujours dit, en France et en Italie, c'est les deux pays qui ont développé la plus belle idée qu'on puisse se faire du beau et du bon. Et j'ai un peu grandi dans cette idée-là, avec évidemment en voiture le guide Michelin dans la boîte à gants. Et on s'arrêtait, c'était pas forcément d'ailleurs pour faire des restaurants toujours étoilés, mais quand on s'arrêtait pour manger, ça se préparait, ça s'improvisait pas, on faisait pas ça au hasard. On n'était pas trop sandwich triangle sur une station d'autoroute, ça c'était pas le genre de
rituel. Parents.
Ouais, ça veut pas dire qu'encore une fois c'était le luxe tout le temps, ou c'était le luxe d'une jolie soupe de cresson. Que ma mère faisait assez facilement avec une botte de cresson, trois pommes de terre et un peu de crème fraîche et un beau bouillon de volaille qu'elle avait préparé du poulet rôti de la veille, quoi. C'est comme ça que ça se passait. Et j'ai toujours été très attaché à cette nourriture familiale et cette nourriture simple et domestique.
C'est quoi votre Madeleine de Proust?
Oh, j'en ai plein, mais c'est vrai que j'ai été souvent très marqué par la cuisine de ma grand-mère parce que je pense que ma grand-mère elle aimait vraiment ses petits-enfants par les plats qu'elle leur préparait. J'ai 14 cousins germains. Ma grand-mère est d'origine corse. Elle vivait à Bastia. Et elle connaissait par cœur les préférences, les goûts de chacun de ses petits-enfants. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait la voir, elle prenait un immense plaisir à préparer à chacun la spécialité. Et moi, c'était ces fameuses courgettes farcies au brooch. Ces courgettes blanches qu'on trouve beaucoup en Corse et également en Italie d'ailleurs, avec une pulpe particulièrement tendre et savoureuse, elle évidait comme ça la chair des pommes de terre qu'elle avait, la chair des courgettes qu'elle avait légèrement cuite à la vapeur, et elle mélangeait cette chair de courgette qui était dense et fondante, mais moins aqueuse qu'une courgette verte. J'ai un problème avec la courgette aujourd'hui parce que j'ai jamais retrouvé le bon goût des courgettes que ma grand-mère achetait chez son maraîcher. Et elle mélangeait en fait cette chair de courgette avec le brooch, qui est ce fameux fromage de lactosérum de brebis, et puis quelques herbes aromatiques du maquis comme de la nepeta, un œuf, un peu de chapelure. On faisait gratiner ça et c'était prodigieux.
On le disait tout à l'heure, le 19e siècle, c'est vraiment le siècle sur lequel la cuisine tout d'un coup s'installe. On ouais. pourrait dire ça. Dans votre livre, vous disiez aussi que culturellement, on va de Diderot à Maigret en passant par Sautet, Colette et Chabrol. Ouais. Finalement, la table, on le voit bien, dans le cinéma, dans la culture, ça représente un moment particulier. Vous citez beaucoup de scènes de films. Par exemple, chez Sautet, il y a toujours une scène à un restaurant. Il peut pas s'en empêcher. Vous racontez qu'il peut pas s'en empêcher. Pour vous, c'est quoi la scène de table réussie?
Au cinéma?
Ouais.
Il y en a plein.
La première qui vous vient, en tout cas, aujourd'hui.
Bah, après, c'est moins parisien, mais c'est vrai que j'ai toujours regardé le Festin de Babette avec beaucoup de passion, parce que je trouve que c'est l'un des films qui propose une vision de la table à la fois historique et profondément gourmande et partageuse. Et puis c'est l'histoire de la gastronomie française telle qu'elle se confronte en fait au puritanisme des pays du Nord. Et ce choc civilisationnel, culturel, je l'ai trouvé fort intéressant et j'aime beaucoup ce film. Mais il y a plein de scènes que j'apprécie. Mais c'est vrai qu'on a tenu justement à mettre le cinéma aussi au cœur du bouquin, parce qu'on a dans notre équipe un certain Laurent Delmas qui s'occupe du cinéma à France Inter et qui a comme ça inventorié toutes les scènes de table à Paris. Et c'est vrai que Paris a été un formidable décor de cinéma. On peut pas résister aussi devant un film comme Ratatouille, qui pour le coup prend vraiment Paris comme l'héroïne principale. Avant même ce petit rat, en fait. Après, la table, voilà, c'est un moment, comme vous le dites, et puis c'est aussi un lieu.
Mais on sent bien dans votre livre, quand même, que alors vous parlez de petites traditions. Paris, c'est le croissant au beurre, la baguette, mais c'est aussi l'épicier du coin, c'est aussi les guinguettes. Il y a quelque chose dans votre cuisine, dans votre travail, qui résonne beaucoup avec cette cuisine populaire qui rassemble, qui fait chanter, qui met ensemble. Sur Colette, vous parlez des soirées à l'absinthe qui ne s'arrêtent pas,
ouais.
Sur lesquelles on boit et on chante ensemble. C'est-à-dire que c'est pour vous, c'est avant tout quelque chose de simple.
Oui, et de convivial et de collectif. Voilà, ça c'est pas un exercice solitaire. Manger peut être un exercice solitaire, mais c'est pas le plus, c'est un peu triste. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs dans la première partie de ma carrière de pratiquer mon métier de manière solitaire, d'aller au restaurant comme on accomplit une mission, en décryptant tous les faits et gestes des serveurs et serveuses, en analysant son assiette, en se concentrant avec un petit carnet, en notant ses impressions à côté. Et en l'occurrence, c'est une situation assez particulière puisque c'était dans un cadre professionnel que je pratiquais ces tables en solitaire, mais c'est comme pour beaucoup d'autres choses, beaucoup mieux à plusieurs, ouais. Dans le sens où y a un truc assez français à continuer à partager, à passer du temps à table, à boire un tout petit peu plus que de raison, même s'il faut consommer de l'alcool avec modération. Mais il y a un truc qui me touche et qui m'émeut, ouais, et qui est assez français, et plus globalement assez méditerranéen. Je rappelle qu'on a toujours le record du temps passé à table. Je crois qu'on est à 2h11 par jour pour chaque Français, en moyenne, hein, ce qui est quand même assez colossal. Et on a une heure de plus que les Américains, qui passent un peu plus de temps la tête dans le frigo plusieurs fois par jour. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a encore en France et qui fait partie de nos habitudes. Faut croire qu'elles sont bien ancrées. Alors tout ne va pas. Il est vrai que je discutais avec un restaurateur à Paris qui me racontait que c'était plus compliqué de fidéliser désormais des convives et des gens à table. D'autres grands restaurants étoilés me raconte que désormais les notes de frais des entreprises pour inviter des clients au déjeuner et choisir une ou deux qui, etc., ces habitudes-là commençaient un peu à se perdre. Il faut résister. Je pense que l'un va pas sans l'autre. On peut rester moderne, efficace, entrer de plein pied dans le 21e siècle tout en gardant effectivement cette,
ce
goût de la table et ce rituel du temps passé à table qui fait de nous d'ailleurs à l'étranger des originaux.
Il faut être un peu historien pour faire ce métier-là.
Passion de l'histoire en amateur, ouais, ça c'est certain parce que toute la gastronomie, encore une fois, c'est une des magnifiques clés pour comprendre l'histoire d'un pays. Moi, quand je voyage, très souvent, j'arrive à comprendre les choses par les premiers plats que je côtoie, quoi. Quand vous allez aux Antilles et que vous mangez un colombo de poulet, vous dites, mais alors, Colombo, quel est le rapport avec les Antilles? Ah bah oui, c'est une ville du Sri Lanka. Et puis en fait, en creusant un peu, vous vous rendez compte que c'est effectivement du Sri Lanka et du sous-continent indien que sont venus dans les années 60 ce qu'on a appelé les coulisses, qui étaient une main-d'œuvre qui a permis aux productions antillaises de se maintenir, la canne à sucre, le rhum, etc. Et ces coulisses sont arrivées effectivement aux Antilles françaises, les valises chargées de leurs épices. Et de leur arrivée est né effectivement ce plat, le colombo, qui est un ragoût très, très épicé, formidable, et qui est désormais solidement enraciné aux Antilles. Donc des exemples comme ça, j'en côtoie 10 par jour, mais c'est souvent en soulevant les couvercles, effectivement, que... on arrive à lire l'histoire d'une ville, d'un pays, d'un territoire.
Mais vous avez une appétence aussi pour l'histoire et vous en avez la mémoire.
Oui, mais j'ai toujours aimé l'histoire. Bon, faut dire qu'il y a l'atavisme maternel, mère, prof d'histoire géo, des jeux et des quiz pendant les longs voyages en voiture. Quand on descendait en Corse, de Lyon à Nice... pour prendre le bateau qui nous menait à l'île de Beauté, on avait le droit effectivement à des quiz historiques, 1515, et j'en passe. Ouais, donc effectivement, j'ai toujours eu, mais au-delà de ça, j'ai toujours eu un certain goût pour l'histoire. Ouais.
On doit beaucoup au Moyen Âge, encore aujourd'hui, pour la cuisine.
Alors, c'est compliqué parce que oui et non. On va dire que si on qu'on doit au Moyen Âge assez curieusement à Paris, c'est l'art de manger dans la rue. Il y avait des cuisines de rue très développées, très sophistiquées, qui se produisaient et s'exerçaient au Moyen Âge dans les rues de Paris. Et en même temps, on a totalement changé de cuisine. Alors, on peut trouver évidemment des héritages du Moyen Âge.
Dans le vocabulaire, par exemple, je pensais.
Je sais pas, il y a un plat comme le blanc manger, par exemple, qui est effectivement un héritage direct du Moyen Âge. Mais la cuisine a énormément évolué depuis le Moyen Âge. On avait affaire à une cuisine très roborative, avec des goûts très marqués, même assez doucereux, et on avait beaucoup, beaucoup d'épices. Mais là, je parle des cuisines aristocratiques. Il est vrai qu'ensuite, la Renaissance et le Grand Siècle ont allégé ce répertoire, et on s'est orienté vers une cuisine plus légère, portée notamment sur les herbes fraîches. Et la cuisine a considérablement évolué. Mais Paris, j'ai envie de dire que Paris doit plus au Moyen-Âge en termes d'architecture que de gastronomie. Ouais.
Et au 19e siècle, vous parlez d'Antonin Carême, par exemple, dans votre livre. C'est un peu le Mrs. Beaton anglais, le premier français qui aura rédigé la recette telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Ouais, Antonin Carême, il a été absolument majeur parce que ça a été un grand pâtissier, ça a été l'architecte du sucré, ça a vraiment été celui qui a eu une ambition forte de codifier la cuisine française et qui s'est donc même fait connaître à l'étranger et qui en plus a représenté ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le soft power de la gastronomie française à l'étranger. Mais de manière générale, le 19e siècle a été particulièrement puissant pour la gastronomie française et la gastronomie parisienne en particulier, puisque c'est au cours de ce siècle que s'est développée, par exemple, cette grande invention parisienne qu'est le restaurant. Hein. Le restaurant, il est né quelques décennies avant la Révolution française. Il a ensuite vraiment, il s'est développé de manière conséquente dans les années 1790. Mais il faut quand même imaginer qu'avant le restaurant, parce qu'on pense qu'il a toujours été là et qu'on a toujours mangé dans des restaurants, En réalité, jusqu'à l'invention du restaurant, on mangeait davantage dans des auberges et des tables d'hôtes, parfois même des traiteurs. La bonne cuisine, elle était pratiquée dans les familles nobles et aristocratiques. Et sinon, lorsque l'on s'aventurait dans une auberge ou une table d'hôte, c'était un peu à ses risques et périls. Et on a même remis la main sur des témoignages de voyageurs étrangers qui se plaignaient de l'indigence de la gastronomie hors domicile, dirait-on aujourd'hui, à Paris. La grande ville, avant l'invention du restaurant à Paris, où l'on mangeait bien hors des sphères privées, c'était Londres, avec une tradition de taverne très forte. Quand on allait dans une auberge à Paris, souvent c'était de l'eau qui venait directement de la Seine, c'était du vin frelaté, c'était du chat à la place du lapin, etc. C'est comme ça que ça se passait. Et ensuite, dans les années 1760, quelques entrepreneurs, dont un fameux Rose de Chantoiseau, ont eu l'idée de développer une formule très moderne de restauration. C'est comme ça que le restaurant est né, avec cette idée que le restaurant devait restaurer la santé. Et au départ, le restaurant était un peu considéré comme une maison de santé qui servait justement des bouillons restaurants, des bouillons qui restauraient la santé, et des nourritures finalement assez saines, comme des œufs fraîchement cuits, avec un certain hygiénisme alimentaire. D'ailleurs, il y a une correspondance célèbre de Diderot, hein, le fameux philosophe des Lumières, à Madame de Volant, qui s'extasiait devant sa première expérience dans un restaurant, le premier ayant été ouvert par un certain Chantoiseau, rue des Poulies, qui est devenue la rue du Louvre. Donc on était vraiment au cœur de Paris. Et c'est ensuite que ce restaurant a évolué. D'autres restaurants ont ouvert dans tout Paris, et peu à peu, le restaurant a colonisé la ville. Et le restaurant avait ceci de moderne qu'il proposait effectivement une autre offre culinaire, mais également, et c'était très nouveau, un menu, une carte avec un choix de plats, avec un tarif déterminé. Donc on savait exactement ce que l'on allait payer. Il y avait ce que l'on appelait à l'époque la carte payante, qui deviendra un peu plus tard l'addition, mais c'était en fait l'ancêtre de l'addition. Alors que lorsqu'on allait à l'auberge, en gros, on payait un peu à la tête du client. Et par ailleurs, le restaurant a aussi inventé comme code très moderne la table individuelle. Dans une auberge, on mangeait dans une table commune et on jouait des coudes avec son voisin qu'on ne connaissait pas. Et là, désormais, le restaurant proposait ce confort d'une table individuelle que l'on réservait, etc. C'est comme ça que le restaurant est né. Et c'est surtout comme ça aussi que le restaurant est devenu peut-être bien l'invention et le mot français le plus connu dans le monde.
Et on retrouve hein, beaucoup de détails sur cette période-là dans votre livre. Il y a aussi beaucoup de légendes, d'histoires, d'anecdotes. Vous expliquez, c'est un peu votre truc quand même, d'expliquer pourquoi on fait comme ça, pourquoi les hommes rentraient en premier dans les restaurants et pas en deuxième. Bah, parce que justement, il fallait vérifier que c'était possible de rentrer sans se faire massacrer. Vous racontez beaucoup de petits éléments autour. C'est un boulot de chercheur de malade quand même, non?
Oui, mais on a été bien entouré, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. J'ai la chance de travailler avec des historiens de renom qui travaillent depuis des décennies sur ces sujets. Je peux citer Loïc Bienassi, qui a été d'ailleurs notre consultant scientifique pour ce livre, qui est notre historien au sein de la bande dont on va déguster le dimanche, et qui est d'ailleurs aussi co-commissaire de l'exposition qui va s'ouvrir à la Conciergerie au printemps. Donc là encore, moi je fais des livres pour en apprendre davantage. Je me sens beaucoup plus cultivé sur la question après avoir sorti ce livre qu'avant. J'ai appris énormément de choses en rédigeant ce livre, en relisant et en pilotant aussi les sujets et les pages des autres contributeurs. Et c'est peut-être aussi ce qui m'excite dans ces aventures. C'est même parfois même un plaisir un peu égoïste d'amasser des connaissances et d'en savoir davantage. Je me nourris de ça et je suis peut-être un peu d'ailleurs boulimique sur ce sujet-là.
Alors, finalement, est-ce que Paris transforme ce qui, au départ, était un peu ce qu'on lui reprochait en carte de visite? Je pense à Paris Gotette de Vaud, sur lequel vous revenez dans ce livre qui est assez rigolo, et que Jacques Chirac aura finalement permis... une autre vie. Et puis, de cette légende des garçons de café qui sont toujours de mauvaise humeur, vous revenez sur le fait que ce petit snobisme fait... presque aujourd'hui et presque une petite plus-value.
La mauvaise humeur des garçons de café, pour le coup, c'est une réalité à laquelle on peut se confronter au quotidien et qui, je dirais, fait même partie de la carte postale quand on vient à Paris.
C'est ça.
On reprocherait presque à un garçon de café
d'être sympa,
quoi. Ça, ce serait pas drôle.
Ouais.
Et on a mis la main sur des papiers de la presse anglo-saxonne qui s'en amuse. Alors, autant Paris peut donner bien des raisons à nos confrères outre-Manche ou outre-Atlantique de s'en prendre à nous et de pratiquer ce qu'on appelle le French bashing. Mais là, pour le coup, la mauvaise humeur des garçons de café, ça les amuse. Ils aiment ça. Et ils aiment d'autant plus ça que ça les dépayse, puisque vous savez quand même que, et ça, c'est pas une caricature, que dans les pays anglo-saxons, il y a une vraie tradition de service, mais c'est aussi lié au fait que le garçon de café, le waiter ou waitress aux États-Unis ou en Angleterre, est aussi payé au pourboire. Donc ça les aide à être un peu sympathiques et à sourire. Le garçon de café a toujours été un peu rebelle. Il a commencé à se mettre en grève, je sais plus si c'est 1904 ou 1907, mais c'est au début du 20e siècle, à se mettre en grève parce qu'il considérait qu'il travaillait trop. Il n'avait pas totalement faux, ceci étant. Hein, il est soumis à des heures de travail assez colossales. Et il s'est battu également, et d'ailleurs il a obtenu ce droit pour porter la moustache, qui était un droit jusqu'alors réservé aux militaires. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître, à partir du début du XXe siècle, des garçons de café moustachus. Mais il reste de mauvaise humeur, vous savez, le garçon de café, ça a tendance à m'agacer, mais le garçon de café qui ne vous regarde pas dans les yeux quand vous commandez un Perrier Rondelle, qui vous rend votre monnaie en regardant ailleurs, ou pire, celui auquel vous faites 14 comme ça et qui trace sa voix en faisant semblant de ne pas vous voir. Ça, c'est un truc qui réapparaît tout d'un coup quand vous êtes un peu calmé.
Non, on a vraiment l'impression, en vous lisant, que finalement, ce truc un peu agaçant devient presque s'inscrit dans une histoire, dans l'histoire de la gastronomie parisienne. Donc, je trouve que vous réussissez à en faire, encore une fois, presque une petite plus-value. La dernière question que je vais vous poser, parce qu'en fait, ça passe vite, malheureusement. Qu'est-ce que vous loupez toujours en cuisine?
Ah, qu'est-ce que je loupe toujours? Moi, ça m'arrive de louper des choses régulièrement. Alors, ça veut pas dire souvent, mais régulièrement, je loupe ma maillot. Non, mais ça m'arrive pas si souvent. Mais de temps en temps, au moment où je m'y attends pas, quand je suis tranquille, reposé, que je fais ça de manière un peu machinale, il y a un truc, ça doit être l'amplitude thermique, enfin, le contraste de température entre l'œuf, la moutarde qui sort du frigo toute froide, etc. Ça monte pas, mais il faut dire que je la monte à la fourchette, moi. J'y vais pas forcément au batteur ou à la... Et de temps en temps, ça prend pas, et ça m'agace, mais c'est rare. Après, ce que je loupe, en général, je fais des choses, je reste un peu dans ce que je sais faire, c'est-à-dire un peu une cuisine de père de famille, quoi. Je m'aventure pas trop dans des grands défis techniques, comme la pâtisserie, etc. Je suis vraiment pas le roi de la pâte à choux.
Vous cuisinez tous les jours?
Ouais, quasiment. Ouais. Ou je je cuisine en amont. Je cuisine beaucoup le week-end en préparant les plats des trois premiers jours de la semaine. Et puis je trouve toujours un peu de temps, même le matin, pour cuisiner. Ouais.
Merci François Gisdoré.
Merci beaucoup. Merci.